RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Planet.
Ah bonjour Julien, bonjour à tous.
Dimanche 2 mars, les Européens se réunissent à nouveau.
Et une fois de plus, c'est pour parler de sécurité européenne et de l'Ukraine, deux jours après l'altercation à la Maison Blanche entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. L'avenir de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, toujours très incertain, la deuxième phase était censée entrer en vigueur ce dimanche. Le Hamas tient à ce que cela soit toujours le cas, mais Israël propose une autre alternative. On vous explique tout dans ce journal. On vous emmène aussi dans la bande de Gaza. Là-bas, après 15 mois de guerre, les débris des bâtiments détruits s'ajoutent aux déchets qui ne sont plus ramassés. La guerre a empêché leur évacuation. L'économie sénégalaise sanctionnée par l'agence américaine S&P. La note souveraine du pays est dégradée. Elle passe de B+ à B, assortie d'une perspective négative. Pour ce qui est de l'économie argentine, ça va mieux. Selon Javier Milei, le président prononçait hier son deuxième discours de politique générale depuis son arrivée au pouvoir il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et il promet de poursuivre les coups de tronçonneuse pour réduire dans les dépenses publiques.
Une ovation hier pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le 10 Downing Street à Londres.
Accueil diamétralement opposé à celui reçu vendredi à la Maison Blanche lorsqu'il a été violemment pris à partie par son homologue américain Donald Trump. Ce dernier l'avait notamment menacé de le laisser tomber s'il n'acceptait pas un accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie, et ce même sans garantie de sécurité. À Londres, pas de menace, mais une détermination absolue à aider l'Ukraine, témoignée par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui l'a invité à participer à un sommet ce dimanche dans la capitale britannique. Sommet consacré à la sécurité européenne et à l'Ukraine. Une quinzaine de dirigeants sont attendus.
Et parmi eux, Olaf Scholz.
Le chancelier allemand, dont le pays est celui qui, après les États-Unis sous l'administration Biden, a le plus soutenu financièrement l'Ukraine depuis le début de la guerre. Alors forcément, là-bas, en Allemagne, l'altercation de vendredi autour du bureau ovale a provoqué une onde de choc. Reste à voir quelles en seront les conséquences alors que le pouvoir allemand s'apprête à changer de main. À correspondance à Berlin de Nathalie Versieux.
Olaf Scholz doit se faire accompagner à Londres par le futur chancelier Friedrich Merz, exige la CDU au lendemain de l'éclat de Washington. L'incident fait monter la pression sur le parti social-démocrate, pressé par les Verts de débloquer une nouvelle enveloppe de 3 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, pressé aussi d'accélérer le rythme des négociations de coalition. L'Allemagne, assène la CDU, doit disposer le plus vite possible d'un gouvernement opérationnel sous la houlette de Friedrich Merz. La pression monte également sur la CDU elle-même. L'incident de Washington survient à l'heure où le futur chancelier venait de déclarer que l'engagement de la Bundeswehr dans une opération de maintien de la paix en Ukraine dépendrait de l'engagement américain. Prenant ses distances avec Washington, il évoque désormais ouvertement la possibilité de troquer le parapluie américain contre le bouclier nucléaire franco-britannique. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Nous ne reculerons pas, prévient le Hamas, qui plaide pour le respect du calendrier fixé.
À savoir l'entrée en vigueur dès ce dimanche de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu avec Israël, celle censée mettre un terme définitif à la guerre à Gaza. Mais cette nuit, le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a lui publié un communiqué affirmant avoir approuvé une proposition américaine visant à prolonger la trêve à Gaza jusque mi-avril, après le Ramadan et la Pâque juive. Ce ne serait donc pas une deuxième phase de l'accord, mais plutôt une prolongation de la première qui impliquerait une libération en deux fois des otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Une première moitié le jour où ce plan américain entrerait en vigueur, et puis une deuxième le dernier jour si un accord sur un cessez-le-feu permanent était trouvé. Le Hamas, je le disais, refuse. Alors que faire? Pour les familles des otages israéliens, une seule urgence, les ramener tous au plus vite. Reportage de nos envoyés spéciaux à Jérusalem, Oriane Verdier et Julien Boileau.
C'est la dernière chance de pouvoir ramener les 24 otages encore vivants et de localiser le corps des 35 autres. Pour porter ce message, le Forum des familles a organisé de nouveaux rassemblements. Naomi est venue exprimer sa solidarité devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Jérusalem.
Oui, le débat est de savoir comment libérer les otages. Bien sûr, demander leur libération sans rien donner en échange serait l'idéal, mais je ne pense pas que ce soit possible. Donc, il faut payer le prix pour qu'ils soient libérés et on pensera ensuite au futur.
Mais dans la foule, tout le monde ne partage pas la même certitude. Yoni est venu en voisin exprimer sa compassion, mais la solution pour lui n'est pas si évidente.
Je ne peux pas me mettre à la place des familles d'otages. Dans le judaïsme, l'un des concepts les plus importants est de libérer les personnes détenues. C'est très important et on fait beaucoup d'efforts pour ça, mais j'espère qu'on restera responsable. Nous sommes obligés de rester responsables. Nous avons un ennemi très dur et nous devons rester forts.
Il est venu l'heure de se débarrasser définitivement de l'ennemi d'Israël, estime à côté une jeune femme. C'est une mission biblique, selon elle, et la seule manière d'obtenir la paix. Julien Boileau, Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
Et c'était l'une des conditions pour accélérer la libération des otages israéliens encore vivants dans la bande de Gaza, permettre l'entrée dans l'enclave de centaines de tractopelles pour commencer la reconstruction.
Des engins de chantier qui permettront aussi de nettoyer des montagnes de déchets, alors qu'après 15 mois de guerre à Gaza, les décharges officielles sont endommagées, voire inaccessibles. Les services urbains de ramassage des ordures n'existent plus et les camions de poubelle ne peuvent de toute façon plus circuler, faute de carburant. C'est un reportage de Rami El-Merari et Pierre-Olivier.
Au beau milieu de la ville de Gaza, la place de Fras Market s'est transformée en décharge à ciel ouvert. Noyée dans les déchets, une tractopelle hors d'âge, au mouvement saccadé s'affaire, la dernière encore en service à des kilomètres à la ronde. Mohamed Alachi est le chef du ramassage des ordures de la ville de Gaza.
Vous voyez tous ces déchets solides, liquides, tout ne brûle pas. Sans matériel approprié, on ne peut pas les déplacer. Ça entraîne la prolifération d'insectes, d'odeurs et de maladies. Beaucoup de personnes habitent autour. C'est très dangereux.
Justement, non loin de cette déchetterie à ciel ouvert, Teba Abou Nahel vit sous un abri de fortune à même le sol.
Il n'y a que des femmes dans cette tente, pas d'hommes. Alors on a toujours peur qu'une souris ou autre chose rentre à l'intérieur. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Je suis malade en plus, j'ai du diabète, de l'hypertension. Regardez mes mains.
Pendant près de 15 mois, la présence de l'armée israélienne à l'est de l'enclave a empêché l'évacuation des déchets vers les décharges existantes. Les habitants attendent donc maintenant des dizaines de tractopelles pour pouvoir y déplacer ces montagnes de déchets. Rami El-Megari, Gaza, Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Et puis le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé il y a quelques heures avoir signé une déclaration pour permettre l'envoi de près de 4 milliards de dollars d'aide à Israël. Le communiqué est bref, mais rappelle qu'un embargo partiel sur les armes imposé sous la présidence de Joe Biden a été annulé.
C'est un coup dur pour l'économie sénégalaise, sanctionné par l'agence américaine Standard & Poor's.
La note souveraine du pays passe de B+ à B, assortie d'une perspective négative. Alors concrètement, ça veut dire que le Sénégal va devoir emprunter à un taux d'intérêt plus élevé qu'avant. Alors pourquoi cette décision, Alexis Bédule, les récentes révélations de la Cour des comptes n'y seraient pas étrangères?
Le rapport de la Cour des comptes sénégalaise publié le 12 février dernier a pesé lourd dans la balance. La dette atteint quasiment 106% du produit intérieur brut. Les déficits cumulés entre 2019 et 2024 sont deux fois supérieurs aux chiffres officiels. Alors après Moody's lundi dernier, c'est au tour d'S&P de dégrader la note sénégalaise. L'agence de notation n'est pas optimiste quant à un redressement rapide de la situation. Inquiétude forte sur la soutenabilité de la dette alors que les intérêts atteindront 20% des recettes en 2025 contre 14% l'année dernière. En réponse aux chiffres révisés, le gouvernement a proposé un plan visant à réduire les déficits budgétaires futurs à 3% d'ici 2027. Ajustement difficile à mettre en œuvre et pari risqué selon S&P qui pointe également les incertitudes sur la croissance du pays. Elle est estimée à 9% grâce aux champs pétroliers et gaziers et c'est un mécanisme classique en économie. La dynamique pourrait bien être freiné par les efforts de réduction des déficits.
Alexis Bédu du service économie de RFI. La Namibie a dit adieu hier à son père de l'indépendance. Sam Nujoma a été enterré dans un mémorial près de la capitale. Celui qui fut le premier président du pays est mort début février à l'âge de 95 ans. Des milliers de personnes ont assisté à ses obsèques. La journée avait été décrétée fériée. Bilan très lourd en Bolivie, au moins 37 morts dont 8 enfants après une collision entre deux bus. Ça s'est passé sur une route très étroite à double sens dans le sud du pays. Le conducteur de l'un des deux bus ne respectait visiblement pas les limitations de vitesse.
Le Mercosur va-t-il perdre l'un de ses membres ?
Le président argentin Javier Milei prévient en tout cas que son pays quittera si nécessaire ce bloc commercial sud-américain si cela lui permettait de conclure un autre accord commercial, cette fois avec les États-Unis. C'est une opportunité historique selon le chef de l'État argentin qui s'exprimait hier au Parlement. Deuxième discours sur l'état de la nation depuis son arrivée au pouvoir il y a un petit peu plus d'un an maintenant. L'occasion surtout pour Javier Milei de faire un bilan de sa politique, et vous allez l'entendre, il n'était pas opposé à un exercice d'autosatisfaction en ce qui concerne ses résultats économiques. Correspondance à Buenos Aires de Théo Conscience.
15 mois après son arrivée au pouvoir, Javier Milei dresse un bilan selon lui sans appel.
L'état de la nation est aujourd'hui beaucoup plus prometteur qu'il y a un an.
Inflation annuelle divisée par 3, monnaie stabilisée, excédent budgétaire. Devant un parlement à moitié vide, le président argentin a défendu son bilan mais surtout sa recette. La désormais célèbre tronçonneuse grâce à laquelle il a réduit les dépenses publiques d'un tiers en un an.
La tronçonneuse est aujourd'hui le symbole d'un changement d'époque, le début d'une nouvelle ère de prospérité pour l'humanité. Et cette fois, plutôt que d'aller à contresens, l'Argentine est à l'avant-garde mondiale.
Javier Milei l'assure. Elon Musk, à qui il a personnellement offert une tronçonneuse dorée, s'inspire de ce qui se fait en Argentine pour réduire la taille de l'État fédéral américain. Après avoir licencié plus de 40 000 fonctionnaires, après avoir coupé dans les budgets des retraites, des aides sociales et des universités, le président argentin compte maintenir son cap, qu'importe le coût social.
La tronçonneuse est une politique d'État qui durera des années et qui ne s'arrêtera que quand elle sera arrivée à bout de l'État, sur le long terme.
Sous les applaudissements des élus de son parti, Javier Milei ouvre officiellement la session annuelle du Parlement et lance la campagne pour les élections législatives d'octobre. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À 5h11 en temps universel. Dernière étape ce dimanche du Tour du Rwanda. Christophe Diremzian vient nous en parler ce matin dans les journaux des sports. Nous, on vous parle maintenant de ce matériau que l'on retrouve notamment dans les vélos, mais finalement un petit peu partout, à la fois dans la haute compétition et dans le sport amateur. Le fibre de carbone, un matériau qui n'a pas que des qualités, François-Damien Bourgerie.
Cadre de vélo, palme de plongée, la fibre de carbone inonde l'industrie du sport, au point qu'elle en serait le troisième secteur le plus friand derrière l'aéronautique et l'éolien. Il faut dire que ce matériau a de quoi séduire. Ultra léger, il est aussi prisé pour son élasticité, c'est-à-dire sa capacité à retransmettre l'énergie. Jean-François Gérard, directeur adjoint scientifique de l'Institut de chimie du CNRS.
Une perche que vous pliez, ça veut dire qu'elle ne va pas consommer de l'énergie dans sa pliure, elle va la rendre au moment du saut, par exemple. Vous avez déformé et elle vous rend l'énergie.
Problème, de tous les matériaux utilisés dans le domaine du sport, la fibre de carbone est l'un des moins durables. Chaque tonne produite génère jusqu'à 40 tonnes de CO2, c'est 20 fois plus que l'acier et 4 fois plus que l'aluminium. Des initiatives, notamment en termes de recyclage, commencent donc à émerger pour limiter son poids sur l'environnement, mais elles restent timides. Aujourd'hui encore, 90% des produits en fibre de carbone finissent incinérés ou enfouis.
Le tout carbone dans le sport, une tendance qui pèse sur l'environnement. C'est un article que vous pouvez lire, ou que vous pourrez lire même d'ici une petite heure maintenant, sur notre site internet rfi.fr. Et puis un mot de la 29e édition du FESPACO qui s'est terminée hier soir à Ouagadougou. Rendez-vous incontournable du 7e art africain. Des centaines de films étaient en lice. L'étalon d'or de Yenenga revient à la maison. Il récompense le Burkinabé Dani Kouyaté pour Katanga, la danse des scorpions. Le Somalien Mo Araoué prend l'étalon d'argent avec Le village aux portes du paradis, et puis le bronze pour la Zambienne Rungano Nyoni avec Devenir une pintade. Il est 6h13 à Paris. Vous retrouvez Julien Coquel-Rohem pour RFI Matin.
Merci Gaëtan Planet, à tout à l'heure. Dimanche 2 mars 2025, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et à la une, l'Europe qui resserre les rangs derrière l'Ukraine. Volodymyr Zelensky accueilli avec les honneurs hier à Londres, aux antipodes de la brutale altercation avec Donald Trump et J.D. Vance dans le bureau ovale vendredi. Alors que les États-Unis menacent d'abandonner l'Ukraine, les Européens se réunissent à nouveau aujourd'hui. On fait le point avec Jean-Jacques Herry à Bruxelles à 6h, temps universel. On appellera notre correspondante en Ukraine à Kiev à 7h. L'actualité ce matin, c'est aussi la République démocratique du Congo, toujours en proie à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda et un allié de l'armée congolaise, les troupes ougandaises qui avancent dans l'Ituri. Prochain point dans moins de 20 minutes. Dans ce contexte, une conséquence directe de la décision de Donald Trump de couper 92% des aides américaines à l'étranger. L'ONG Action contre la faim, contrainte d'arrêter une cinquantaine de ses programmes dans une vingtaine de pays, dont la RDC. Il est 5h14. En temps universel. Et pour commencer, ce sont des manœuvres qui inquiètent et dont RFI vous a parlé cette semaine. Celle de la Chine qui a mené de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan. Elle s'est aussi livrée à des exercices de tir réels il y a une semaine au large de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et nous sommes ce matin au Japon, car à l'est, en mer de Chine orientale, la situation s'est également beaucoup dégradée ces dernières années en raison des provocations militaires à répétition de Pékin. À Okinawa, dans l'extrême sud du Japon, l'armée est mobilisés comme jamais et l'inquiétude des habitants grandit. Reportage sur place de notre correspondant Bruno Duval.
L'an dernier, des navires des gardes-côtes chinois lourdement armés ont pénétré à 39 reprises dans les eaux territoriales japonaises pour s'approcher des Senkaku, des îlots nippons que Pékin revendique. Et pendant 355 jours, ils ont harcelé les chalutiers japonais qui pêchaient aux alentours, leur ordonnant de quitter immédiatement, je cite, « le territoire chinois ». Au-delà, des navires de guerre chinois ont croisé en mer de Chine orientale à 68 reprises en 2024. C'est beaucoup plus que les années précédentes. Un avion de reconnaissance chinois a violé l'espace aérien japonais, du jamais vu. Et dans la région, les exercices de l'armée de l'air chinoise se sont succédés, incluant parfois des bombardiers. Dans les rues de Naha, la capitale d'Okinawa, l'inquiétude est palpable.
Un missile tiré à Pékin met moins de 10 minutes pour arriver ici. Le moment venu, on n'aura pas le temps de se mettre à l'abri.
Il n'y a pas le moindre abri anti-missile près de chez moi, donc je n'aurai pas le choix. Je resterai à la maison, je me recroquevillerai sous la table du salon et prierai.
En ce moment, je ne regarde plus les journaux télévisés. Ils sont trop stressants.
Désormais, en mer de Chine orientale, bon nombre d'îles japonaises sont hérissées de batteries de défense anti-missiles. Dans plusieurs bases militaires, des missiles balistiques de longue portée sont entreposés et les garnisons stationnées dans la région vu leurs effectifs considérablement augmentés. Mais cette mobilisation militaire ne fait pas l'unanimité. Certains jugent qu'elle fait courir des risques aux habitants.
Ces bases militaires censées nous protéger, en fait, elles nous mettent en danger, car si la guerre éclate, les localités où elles sont implantées seront la cible numéro une de l'ennemi. Rien que cette idée me fait frémir.
On le voit en Ukraine depuis 3 ans. Les missiles russes s'abattent en priorité sur les villes où se trouvent des garnisons ou des dépôts de munitions. Ce sont des abris souterrains qu'il nous faudrait pour être bien protégés, pas des bases militaires.
Comment l'armée prend-elle ces critiques? La réponse du major général Nakashima, le numéro 2 de la zone de défense du sud-ouest.
Notre devoir, c'est de protéger l'ensemble de notre territoire et d'assurer la sécurité de tous les Japonais. Mais dans notre pays, le sentiment antimilitariste n'est pas marginal depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous en prenons acte avec humilité et allons donc poursuivre notre travail de persuasion et de conviction afin d'obtenir la compréhension et la coopération de la population.
L'enjeu est aussi de rassurer. À en croire les sondages, 8 Japonais sur 10 jugent que l'environnement sécuritaire de la région s'est dégradé ces dernières années. Et plus d'un sur deux se dit persuadé qu'un jour ou l'autre, la Chine finira par attaquer Taïwan, qui n'est qu'à une centaine de kilomètres de plusieurs îles japonaises. Bruno Duval, de retour d'Okinawa, RFI.
L'inquiétude des Japonais face aux manœuvres chinoises en mer, notre reportage international à retrouver sur RFI.fr. Et au-delà de ses ambitions régionales, la Chine veut aussi profiter du retour au pouvoir de Donald Trump et du retrait des États-Unis, des organisations internationales et de l'aide au développement. L'occasion pour Pékin d'asseoir encore un peu plus son statut de puissance et même de superpuissance globale comme elle le fait depuis 20 ans, une politique qui passe notamment par le numérique. On a vu comment la plateforme TikTok suscite les inquiétudes des Occidentaux et une politique qui laisse des traces dans le langage des Chinois. Il s'est parsemé de mots nouveaux, de néologismes surgis sur Internet. C'est ce que nous raconte ce matin notre livre international, l'ouvrage collectif « Quand la Chine parle », co-dirigé par les sinologues Gilles Guilleux et Loucheux. Gilles Guilleux, professeur à l'Université Paris-Cité, nous en parle au micro de Joris Zilberman.
Gilles Guilleux, bonjour.
Bonjour.
Votre ouvrage est comme un dictionnaire de la société chinoise au prisme d'Internet et de ses expressions nouvelles devenues virales. Quelle est l'image qui en ressort ?
On est dans une société pleine d'humour. Plusieurs entrées témoignent de la façon dont la population s'accommode des contraintes auxquelles elle est exposée et s'accommode avec ironie. Le deuxième commentaire que je ferai, c'est finalement la capacité, malgré le renforcement du contrôle politique, malgré l'importance des contraintes, la capacité de la population à contourner ces contraintes dans la mesure du possible, à l'intérieur d'un cadre extrêmement défini. Mais dès qu'il y a une nouvelle règle, il y a une nouvelle façon de détourner la règle.
Vous l'écrivez, la Chine de Xi Jinping est à la fois une superpuissance globale et un pays parfois en pleine déprime, d'où cette expression incontournable désormais sur les réseaux sociaux chinois, « rester couché, Trangping » en mandarin. Qu'est-ce que ça révèle du malaise chinois ?
Moi, il me semble que Trangping, ça révèle l'épuisement des formes de mobilisation de la main-d'œuvre. On a appelé les travailleurs chinois à mobiliser leur énergie pour faire entrer la Chine dans le monde moderne au cours des dernières décennies. Et on leur a promis, on leur a assuré un certain nombre de récompenses. Je veux dire, les gens se sont beaucoup mobilisés, mais en échange de quoi, les transformations des conditions de vie ont été particulièrement spectaculaires. Eh bien, ces formes de mobilisation ne fonctionnent plus. Les générations les plus jeunes, les gens qui ont la vingtaine, s'ils travaillent d'arrache-pied à l'université, obtiennent le diplôme qu'ils souhaitent à la sortie de l'université, les salaires qu'ils espéraient ne sont pas là. Ils ne peuvent pas acheter un appartement parce que le coût de l'immobilier est vertigineux. Ils ne peuvent pas non plus faire des projets matrimoniaux. Donc, les promesses de prospérité ne sont plus tenues. Et donc, une partie de la jeunesse ne voit plus pourquoi elle s'épuiserait au travail, elle s'épuiserait dans la compétition pour participer à ce rêve chinois, comme la désigne le président.
Alors, on peut lire dans votre ouvrage une autre expression nouvelle, les petites roses, Xiaofenhong. Ça ne parle pas de fleurs, mais plutôt des jeunes filles nationalistes sur l'internet chinois. Elles représentent une force de frappe très puissante contre les ennemis de la Chine, mais aussi contre les multinationales lorsqu'elles les accusent d'humilier les Chinois. Alors, comment expliquer l'apparition de ces communautés d'internautes spontanées qui défendent le régime de Pékin?
C'est-à-dire que Internet est un espace qui est fluide, flexible, où on a des techniques d'expression qui sont particulièrement ludiques. C'est-à-dire vous détournez une image, vous retournez une image, ou c'est un espace qui se prête particulièrement à l'expression rapide, instantanée, éventuellement massive d'opinion. Et par ailleurs, le nationalisme est sans doute l'une des seules expressions politiques qui soit tolérée par le régime. Une partie de ces nationalistes sont des jeunes filles qui s'expriment parfois librement, parfois enrôlées par des structures du parti État derrière le mot d'ordre de défense de la nation chinoise. Occasionnellement, à cause d'un fait, etc., Xiaofenhong appelle au boycott de telle ou telle marque étrangère. Je pense à la critique qui a été faite de certaines marques de vêtements qui dénonçaient le coton qui vient du Xinjiang, etc.
Votre ouvrage collectif parle aussi du cassage de porcelaine, prangzi en chinois. C'est, peut-on lire, un révélateur d'une crise de la moralité publique. De quoi s'agit-il ?
Oui, il s'agit des phénomènes qui voient s'affronter des personnes qui appartiennent à des générations différentes. Et il s'agit en particulier d'évoquer les gens qui portent secours à un inconnu dans la rue et qui se font ensuite poursuivre devant la justice par les personnes qu'elles ont secourues pour extorsion de fonds. C'est-à-dire que vous avez aidé quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture et cette personne va vous accuser de l'avoir renversé. Et si vous l'aidez, c'est parce que vous l'avez renversé, etc. Et donc, ces affaires ont été beaucoup commenté dans la presse chinoise comme signe d'un problème de moralité publique. Mais c'est aussi le signe du fait que la génération des personnes âgées qui ont des toutes petites retraites estiment en fait être dans leur bon droit de chercher à soutirer de l'argent à des gens qui appartiennent à des générations plus jeunes qui ont des niveaux de rémunération, de salaire plus élevés.
Gilles Guilleux, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, Quand la Chine parle, que vous co-dirigez avec Lou She et qui vient de paraître aux éditions Les belles lettres.
Le professeur Gilles Guilleux dans notre livre international avec Joris Silberman. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, il paraissait jusque-là épargné par les tensions qui agitent leurs partenaires du nouveau Front populaire. Les écologistes affichent depuis l'an passé une certaine sérénité et jouent le rôle du point d'équilibre de l'union de la gauche, régulièrement déchirée par les conflits entre socialistes et insoumis. Bonjour Aurélien de Vernoy.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Ces derniers jours, toutefois, les crises s'enchaînent et la direction menée par Marine Tondelier vacille.
Avec tout d'abord cette séance de mea culpa médiatique que la patronne des écologistes a dû s'infliger cette semaine. Marine Tondelier a exprimé ses regrets sur la manière dont son parti a géré les accusations contre Julien Bayou. La plainte pour harcèlement moral et abus de faiblesse contre l'ancien dirigeant des Verts vient en effet d'être classée sans suite, mais celui-ci a vu sa carrière politique exploser en vol, après notamment que les écologistes aient diligenté une enquête interne contre lui. Il était impossible de bien faire dans ce dossier, a tenté de se défendre Marine Tondelier, trop peu trop tard selon son prédécesseur, qui regrette qu'elle ne soit pas capable de reconnaître son innocence. Julien Bayou dénonce aussi l'acharnement contre lui de la députée Sandrine Rousseau. Or, celle-ci devrait garder sa place dans la direction du parti à l'issue du congrès des écologistes prévu fin avril.
Un congrès qui suscite aussi de vives critiques à l'encontre de la direction actuelle.
Notamment en raison des nouveaux statuts votés l'an passé destinés à supprimer la balkanisation habituelle des écologistes, explique l'eurodéputé David Cormand, proche de Marine Tondelier. Désormais, il est plus simple pour la motion la plus importante d'obtenir la majorité absolue, ce qui était quasiment impossible auparavant. Un problème démocratique et une rupture avec l'esprit du parti, clament de leur côté les opposants, qui reconnaissent toutefois se réveiller un peu tard. On va vers une LFisation des écolos, peste un cadre du parti, y voyant la volonté de Marine Tondelier de s'inspirer des méthodes autoritaires de Jean-Luc Mélenchon pour préparer sa propre candidature à la présidentielle.
Sauf qu'elle n'est pas la seule chez les écologistes et que là aussi ça pose problème.
Notamment avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui ne briguera pas un nouveau mandat en 2026 et qui se serait bien vu porte-parole du parti pour gagner en exposition médiatique en vue de 2027. Ce n'est pas le principe du poste de porte-parole, cingle David Cormand. Un observateur avisé de la vie des écologistes préfère lui en rire. Éric Piolle a été bien naïf de croire que son ancienne protégée Marine Tondelier allait lui dérouler le tapis rouge. Maintenant, elle veut être la seule sur la photo. Jalousie, réplique-t-on dans le camp Tondelier, où l'on persifle. Certains n'acceptent simplement pas qu'elle soit plus populaire qu'eux. Bref, bonne ambiance à 2 mois du congrès.
Aurélien de Vernois du service politique, merci. Et le dimanche, RFI Matin accueille Steven Jambeau pour nous donner le programme de l'Atelier des médias. Bonjour Steven.
Bonjour Julien.
Votre invité du jour est un rédacteur en chef français de retour d'un voyage d'études dans la Silicon Valley.
Aurélien Vierre, c'était jusqu'il y a peu le directeur de la rédaction du quotidien français La Provence. Auparavant, il a été rédacteur en chef numérique à l'Obs et au Parisien. Bref, c'est un journaliste expérimenté. Fin janvier, avec une poignée de managers de grands médias européens, il est allé à San Francisco et dans la Silicon Valley pour voir ce qui se fait en matière d'intelligence artificielle dans le monde de l'information.
Il en est revenu avec une impression de vertige.
Oui, je lui ai demandé de nous partager au micro de l'Atelier des médias 10 infos à retenir de son voyage. Il m'a notamment expliqué que ce que l'on considère comme un média va peut-être radicalement changer dans les années à venir.
C'est ça qui est vertigineux. On a un problème de kiosque depuis le début sur le web. Le grand kiosque, c'était donc Google pendant 25 ans. C'était le moyen d'accès aux informations. Après, les éditeurs ont développé leurs sites, leurs applications. Et là, on est en train de réinventer tout cela. Ce qui est vertigineux, c'est que certains rédacteurs en chef nous ont dit « Mais à quoi on va ressembler dans le futur et à quoi vont ressembler les futurs médias ?» Peut-être que les futurs médias qui vont se créer seront des bases de données, tout simplement, des bases de données de texte, puisque l'IA se base beaucoup sur le texte actuellement, tout est traduit en texte, des bases de données remises à jour. Au lieu d'aller consulter un article, vous allez nourrir une base de données qui va s'interfacer avec l'IA. Vous allez créer votre propre écosystème d'intelligence artificielle qui va communiquer avec des plateformes pour obtenir et éditer l'information d'une nouvelle manière.
En effet, Steven, avec l'intelligence artificielle, on voit se multiplier les robots conversationnels.
Oui, vous savez, ces chatbots comme ChatGPT qui se nourrissent de ce que les entreprises à qui ils appartiennent leur donnent à manger. Il y a donc des robots qui parcourent les sites internet, les plateformes de vidéos comme YouTube, etc. pour se nourrir. Les contenus produits par les médias sont à forte valeur ajoutée et donc précieux. Le tout pour les entreprises de presse, c'est de réussir à ne pas se faire piller. Et pour ça, des solutions commencent à émerger, m'a expliqué Aurélien Vierre.
Que l'on retrouve à 11h10 temps universel sur RFI, donc dans l'Atelier des médias.
Et dès maintenant en podcast sur l'application d'écoute de votre choix.
Merci Steven Jambeau.
Bonne journée Julien.
Et sur RFI, il est bientôt 5h30 en temps universel. Vous restez avec nous, le journal dans une minute.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Invité exceptionnel dans cette émission consacrée à l'Ukraine après 3 ans de guerre, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine du patriarcat œcuménique de Constantinople, premier siège ecclésial de l'Église orthodoxe. Nous évoquons la question complexe des églises orthodoxes dans la guerre et de l'unité des églises.
Religion du monde avec Véronique Guémard.
Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU.
RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
Le 61e salon de l'agriculture se termine ce dimanche à Paris. Une dizaine de pays africains sont présents pour promouvoir leur production locale et trouver de nouveaux partenariats. Un jour au village s'intéresse à la participation de l'Afrique à cet événement du monde agricole.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tout à l'heure à 21h10 TU sur RFI.